OK, oui, on jase et on jase de sujets très importants avec vous et continuez à jouer au 418, à interagir au 418-971-1021. Vous avez été énormément le faire durant le budget corner. Je vous dirais là, un petit pourcentage comme ça là, que je retiens. 70% des gens trouvent à écrire, mais la dette, c'est vraiment trop élevé. Le déficit est trop élevé. Ça me fait peur. Mais 30% des gens qui disent hey, crime, il y a une baisse de. Il n'y a pas de TPS pour le premier achat d'une maison. Versus le PIB, on n'est pas encore dans le trouble.
Il y a certaines taxes de luxe qui tombent aussi. Exactement. Fait qu'il y avait une classe sociale plus aisée qui s'achetait des biens et qui disait ah, on était écœuré d'avoir les taxes de luxe. Parce que ça, par contre, elle n'a pas tombé sur les voitures.
Non.
Elle est encore bien en place. Mais c'est vrai qu'on a essayé de plaire un petit peu à tout le monde au niveau de l'austérité du portefeuille personnel.
En plein ça. Il y avait une très grosse soirée hier aux États-Unis, Pascal, parce qu'il y avait plusieurs élections, dont celle à New York pour un nouveau maire. Et on va tout de suite aller en parler avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et ex-enseignant au cégep Garneau. Luc, comment vas-tu?
Particulièrement bien. J'espère que c'est la même chose de votre côté pour toute l'équipe.
Oui. Luc, on va écouter dans quelques instants une minute du discours de Zoran Mamdani, justement, qui a remporté la mairie de New York avec un peu plus de 50% des voix. Mais avant ça, Luc, il faut que je te le dise, c'est une véritable rock star qui vient d'arriver à la mairie de New York à 34 ans comme ça.
Écoute, ça a rappelé, avec les forces puis les limites, mais ça a rappelé un peu le phénomène Barack Obama. C'est quelqu'un qui a l'air sorti du champ gauche, puis c'est le cas de le dire, du champ gauche dans ce cas-ci. Donc, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu venir vraiment, mais qui, dans les derniers mois, a connu une ascension qui est fulgurante. Hier, et on va écouter le discours, là, mais hier, il a parlé d'espoir, il était au-devant des gens. C'est un talent naturel pour la communication, mais aussi pour établir des contacts avec les gens. Donc, oui, une rockstar. En même temps, une rockstar, ça a des limites. Il y a l'image, il y a les mots. Est-ce qu'on peut livrer la marchandise? On pourra reparler de ça éventuellement.
Exactement. On écoute cette minute de discours de Zoran Mamdani. Dans les 12 derniers mois, on a renversé le pouvoir. Le pouvoir est maintenant dans nos mains. On est en train d'écrire une nouvelle dynastie. Il est allé loin, c'est... Monsieur Mamdani.
Ils sont forts, les mots. Là. Ils sont très Donald Trump, sa crowd, et on essaie de créer sentiment d'appartenance. Là.
Écoute, il y a beaucoup de choses dans ce court extrait-là, mais finalement, on offre comme répartie à Donald Trump, qui est un populiste de droite. Puis je le dis, ça peut être positif. Le populisme, des fois, on craint ça ou on prend ça de haut. Là. Si on est près des gens, puis que les gens, on écoute les gens, puis qu'ils se retrouvent dans notre message, bien, en démocratie, il me semble que c'est positif. Ça en prend un brin de populisme ou beaucoup parfois. Donc, il offre en répartie ou en contrepartie au populisme de droite de Donald Trump un populisme de gauche. Et il est pleinement assumé. Non seulement il le dit, si on est contre les institutions, si on est contre les politiciens de carrière comme Andrew Cuomo, qui était son adversaire, effectivement, il dit « on passe un message aux riches, aux puissants, à ceux qui sont au sommet ». Grosso modo, nous, les travailleurs, la classe moyenne, ce que lui, en passant, n'est pas. Mais il dit, nous, on s'en vient, c'est notre tour. Et pour assumer pleinement son étiquette de gauche, ben, il a commencé par une citation de Eugene Debs. Pour ceux qui ne font pas d'histoire américaine ou de politique américaine à tous les jours, ils disent, pourquoi il a commencé avec ce gars-là? C'est quelqu'un qui était, aux États-Unis, un socialiste. Donc, un socialiste, on voit ça différemment un peu de notre côté de la frontière. On est plus près de la vraie définition d'un socialiste. Mais aux États-Unis, c'est entre ça et le diable, l'étiquette se compare pas mal. Donc, il se colle à Eugene Debs, qui a été un candidat démocrate socialiste. Et ensuite, il passe un message aux travailleurs contre les élites. Alors, c'est comme ça qu'il débute hier. C'était très fort. Le ton, d'ailleurs, ceux qui l'ont suivi pendant la campagne, c'est quelqu'un qui était rassembleur, c'est quelqu'un qui semblait en contrôle, quelqu'un qui a un message qui était, hier, j'ai envie de te dire, c'était à mi-chemin entre l'arrogance, hein, la confiance, le défi. C'est la première fois que je l'entendais s'exprimer sur une longue période avec ce ton-là. Mais bien sûr, je pense que c'est Pascal que j'entendais dire, il a parlé à sa crowd, hein, où il a parlé à ses partisans. Hier, c'était la récompense. Vous avez accepté le défi, vous avez relevé le défi, nous entrons maintenant à l'hôtel de ville, et on va changer des choses.
Par contre, moi, il y a une petite note que je me suis prise en écoutant ce discours-là hier, et c'est Qu'adviendra-t-il de l'homme en question et de sa politique? Parce qu'effectivement, il ne fait pas partie de la strate qu'il défend et qu'il met de l'avant. Ça se peut que ce soit bien fait, mais essentiellement, il n'y a pas les bottines sur la terre avec ces gens-là qui en arrachent peut-être un petit peu plus financièrement et qui travaillent 40 heures semaine avec un salaire minimum. Ça ne fait pas de lui une personne disqualifiée pour les défendre. Au contraire, il va peut-être avoir accès un petit peu plus aux gens qui, est dans la, qui sont dans la hiérarchie sociale élevée en termes de finances. Puis, crime, il va pouvoir leur parler puis être un petit peu leur pote d'endor, leur porte-voix. Mais, c'est la même chose pour Donald Trump. Faut pas qu'il vienne qu'à s'en servir de cette crowd-là qui va lui faire confiance.
Ouais, puis qu'il les déçoive. Il a fait une partie du travail, c'était de mener la campagne qu'il a menée et de l'emporter. Donc, c'était déjà en soi, considérant son jeune âge, c'est 34 ans, même, Danny, je pense. Mm-hmm. C'est pas beaucoup d'expérience non plus sur la scène politique. Donc, il réussit déjà un premier exploit. Et souvent, on disait, quand on se battait dans la cour d'école, souvent le plus difficile, c'est pas de grimper sur la montagne l'hiver, c'est d'y rester hein, quand on...
Le fameux roi de la montagne.
C'est le fameux roi de la montagne. Ce matin, il est le roi de la montagne. Il est là pour un bout de temps encore. Et moi, j'ai eu une pensée, mais ça va avec les élites, puis ça va aussi avec ben, les gens à qui il a promis beaucoup de choses. C'est, j'ai pensé à la gouverneure démocrate de l'État, Mme O'Connor. Madame O'Connor, un des premiers appels qu'elle va recevoir dans ses prochaines journées de travail, ça va être celui de Mme Dany, qui est le maire de New York. Quand on promet autant le gel des logements, la création de logements sociaux, le transport en commun gratuit, service de garderie, un peu ce qu'on a, nous, ici au Québec, mais on sait qu'il y a un coût et un prix qui vient avec ça, le maire de New York ne contrôle pas tous les leviers. Il a besoin d'aide des différents paliers, entre autres pour du financement. Ces fameuses taxes pour les corporations et les plus riches, ça ne suffira pas. Donc, il a besoin de, entre autres, la gouverneure qui est du même parti que lui. Et j'aurais été curieux, moi, d'être dans le salon de Mme O'Connor hier devant son téléviseur quand elle a vu se confirmer ce qu'on annonçait depuis quelques jours, c'est-à-dire la victoire d'un type du même parti, mais beaucoup plus progressiste. Donc, la pente, elle est très raide pour Mme Dany. Donc, on promet beaucoup, le message est positif. Beaucoup de gens se sont reconnus dans son parcours. Je disais, c'est pas quelqu'un qui est issu des classes très modestes, là, il s'est pas arraché à la pauvreté, mais c'est un immigrant. Il est de confession musulmane. Il y a beaucoup d'immigrants aux États-Unis, entre autres à New York, qui est une ville d'immigrants construits souvent par des immigrants. Donc, quand on va chercher autant de passion, et c'est là où je disais, il y a une comparaison avec Obama, mais un peu avec Trump aussi, quand on va chercher autant d'enthousiasme, autant d'espoir, autant de partisans, livrer la marchandise après, c'est drôlement important. Et je le répète, il va fort probablement manquer d'argent et peut-être d'amis au plan politique, même au sein de son propre parti.
Oui, parce que Luc, hier, justement, grosse journée, pour le grande soirée pour les démocrates. Mme Dany à New York, mais surtout Abigail Spanberger qui prend la gouverne de la Virginie comme gouverneur et Mickey Sherrill qui est élu gouverneur du New Jersey. Ouais. On a également modifié la carte électorale en Californie comme on a fait au Texas, mais cette fois-là, à l'avantage des démocrates. Mais ça... Spanberger, Sherrill, c'est des démocrates modérés. Donc...
Ouais, écoute. Oui, pardon, vas-y.
Ben donc, il y a une grande victoire à New York d'un progressiste, mais en même temps, il y a deux belles victoires de démocrates modérés dans des États clés. Le Parti démocrate, il se retrouve déchiré ce matin-là.
Ah, j'ai envie de te dire écartelé.
Oui,
parce que... Même en Californie, où on dit ce sont des démocrates, là, Gavin Newsom, qui est le gouverneur, c'est celui qui a porté la proposition 50, le fameux redécoupage de la carte électorale auquel tu faisais référence. Hier, c'était une victoire écrasante. Gavin Newsom, il s'est repositionné politiquement. Il est beaucoup plus au centre qu'il ne l'était quand il était maire de San Francisco.
Dans le but de devenir président, Luc?
Ben voilà, moi, je suis convaincu qu'il est sur les rangs en 2028. Et là, tu es un dirigeant du Parti républicain, du Parti démocrate, pardon. Tu es Hakeem Jeffries, qui est le meneur des démocrates à la Chambre. Tu es Chuck Schumer, le meneur des démocrates au Sénat. Et tu te dis, là, dans un an, on a des élections de mi-mandat. Puis on les calcule vite. Dans trois ans, on n'a pas encore de chef de file. On va aller au bâton avec qui pour affronter le républicain qui devrait être quelqu'un d'autre que Donald Trump. Et la grande question, c'est d'ici un an ou d'ici trois ans, est-ce qu'on s'en va vraiment à gauche à la Mme Dany? Ou si on s'en va plus vers le centre, aux États-Unis, et peut-être qu'il y a une vague de fond qui m'échappe, parce que même Dany, c'est très spectaculaire ce qui s'est passé, mais je ne vois pas un candidat aussi progressiste aller chercher ce qu'on appelle les swing states ou les états pivots. Mm-hmm. Je pense que quelqu'un comme Mme Dany, à New York, dans le contexte new-yorkais, avec les adversaires qu'il avait, c'est possible. Je suis loin d'être convaincu que sur la scène nationale, c'est jouable.
Je pense pas qu'au Michigan, en Pennsylvanie, ça fonctionne.
Non, voilà, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, la Géorgie. La Géorgie, c'est maintenant un terrain, tout à fait, puis on l'a démontré, c'est devenu un terrain, le Nevada, par exemple, l'Arizona. Ce sont des États qu'on peut aller chercher ou qu'on peut espérer gagner maintenant comme démocrate. Est-ce qu'on peut aller toute gauche dehors à la Mme Dany? En tout cas, il va falloir qu'on travaille fort pour me convaincre. J'ai rien vu dans les statistiques ou dans les mouvements dans les dernières années qui permettent ça. Donc, d'ailleurs, hier, quand je te disais j'aurais aimé voir Mme Hochul, qui était la gouverneure de New York, hier, j'ai entendu Hakeem Jeffries, qui est, je répète, donc le meneur des démocrates, mais à la Chambre des représentants. On l'a interrogé sur Mme Dany. Il n'a jamais répondu à la question. Il évite ce sujet-là comme la peste. D'ailleurs, il s'est rallié à lui uniquement à la dernière journée de la campagne. Ça s'en dit long sur la crainte qu'inspire Mme Dany pour le Parti démocrate. De l'autre côté, Chuck Schumer, donc le meneur pour les sénateurs, lui, il n'en a pas parlé du tout. On ne lui a même pas posé la question. Il ne veut rien savoir. Donc, il y a un changement. Il y a une relève de la garde aussi dans les choses à surveiller aux États-Unis. Il y a beaucoup de jeunes qui ont appuyé Mme Dany, puis des jeunes hommes. C'est une clientèle électorale. C'était le cas en Virginie puis au New Jersey aussi. C'est une clientèle électorale qui échappe plus aux démocrates. Les jeunes hommes puis les jeunes hommes blancs, ils votent plus conservateurs et ils votent plus républicains. Et whoops! Là, tout à coup, on va les chercher. Mais on va les chercher. Ce que ces gens-là s'attendent, c'est qu'en guillemets, on ne fait pas d'âgisme, mais c'est que les plus vieux laissent la place. On est prêt pour une nouvelle génération, mais étrangement, cette nouvelle génération-là, autant elle peut aller sur la droite, on le voit avec les partis républicains, autant elle veut aller aussi sur la gauche, façon Mme Dany, contre les élites. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Et si je suis un républicain aujourd'hui, ce matin, si je suis un stratège ou un élu dont le siège va être en jeu l'année prochaine, dans mes notes, il y a discussion avec moi-même. Jusqu'où je suis Donald Trump? Parce qu'il m'a peut-être coûté des points hier, parce que dans à peu près tous les commentaires d'électeurs qui se sont exprimés dans les quatre États dont on vient de parler, ils ont tous mentionné le bilan de Donald Trump et ce n'était pas favorable. Donc, que ce soit sur l'immigration avec la police frontalière, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur une gestion autoritaire de plusieurs dossiers, il y avait hier comme une fatigue Donald Trump. Alors, si je suis un élu républicain, moi qui me suis rangé derrière Donald Trump parce que je lui devais souvent mon siège, est-ce que je lui reste fidèle jusqu'à l'année prochaine? Surtout qu'il n'est pas censé revenir. Ouais, est-ce que ce n'est pas le temps de prendre mes distances? Il va y avoir beaucoup de réflexions dans les deux parties.
Pour Donald Trump, sa stratégie politique, il lui a servi. Entre autres, il a quand même divisé sa population avec ses idées. Puis il y en a qui ont été qui ont suivi Donald Trump dans sa politique. Puis c'est correct, je veux dire, chacun a le droit de voir les choses. Est-ce que les démocrates auraient tout à gagner de rassembler les gens au sein du pays, peu importe le parti pour lequel ils votent, ces électeurs-là, parce que, bon, je ne veux pas entrer dans lire entre les lignes, mais le nouveau maire de New York a quand même eu une petite tendance à diviser la population dans son discours hier. Est-ce qu'on est mieux de continuer dans ce que Donald Trump a fait ou on est mieux de se dissocier de la politique actuelle qui est séparatiste de Trump pour la suite des choses en espérant être élu?
Moi, je pense qu'il faut s'inspirer surtout de ce qui est arrivé en Virginie, de ce qui est arrivé au New Jersey, de ce qu'on a fait avec Gavin Newsom. On est de plus en plus près du terrain. Puis ça, c'est une chose qu'on avait oubliée du côté démocrate. Faut proposer. Mme Dany a été fort là-dessus, mais très à gauche. C'est-à-dire, au lieu de faire, et là, je caricature un peu, mais au lieu d'être l'universitaire qui vous explique les grandes théories, voici comment la vie fonctionne. C'est plutôt d'aller dans la cuisine des gens ou dans leur salon pour dire, vous avez besoin de quoi? C'est comme on passe du niveau théorique à la pratique. Les démocrates, plusieurs d'entre eux, avaient oublié ça. Donc, c'est aller sur le terrain, donner des solutions concrètes à des problèmes concrets, puis ensuite, miser sur la fatigue Donald Trump. C'est comme une stratégie en deux volets. Mais je répète, dans le côté pragmatique, est-ce qu'on va aller plus Gavin Newsom ou Mme Dany? Imaginons qu'en 2028, on est dans les primaires démocrates puis que Mme Dany est tellement populaire qu'il se présente pour être président des États-Unis. Si vous êtes un démocrate, vous allez vers qui? C'est un peu un combat revanche, mais avec des joueurs différents. La confrontation Bernie Sanders contre Hillary Clinton. La dernière fois, on a essayé Clinton, puis on a perdu. dans un contexte particulier. C'est pas la même chose. Ce sera pas la même chose en 2028. Mais ce débat-là, on l'a déjà fait chez les démocrates, puis on était allé vers le centre. Et on a perdu deux fois. On a gagné avec Joe Biden, mais on a perdu avec Kamala Harris puis Hillary Clinton. Donc, stratégiquement, vous allez vers qui à partir de maintenant? Mais la première clé, soyez sur le terrain. Allez, relevez-vous les manches, allez vous salir un peu dans les vrais sujets, dans le quotidien des gens, plutôt que d'y aller avec de grands débats abstraits et théoriques avec lesquels vous perdez des appuis.
Et là, de cette façon-là, ben, ça permettra aux démocrates de voir où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent aller à gauche de l'échiquier politique. Luc Laliberté, toujours un plaisir de te parler.
Ah, écoute, c'est un plaisir vraiment partagé. Puis on ne manquera pas encore pour un an ou pour les prochaines
fois. Oh non, c'est clair. Merci beaucoup de faire partie de l'émission On en jase et on se reparle bientôt.
Bye-bye, bonne journée à tout le monde et aux auditeurs.
Salut Luc, merci beaucoup. Luc Laliberté, tellement intéressant, Pascal, de parler avec Luc Laliberté, le côté historique qu'il a de la chose et surtout de la façon qu'il nous explique comment ces courants politiques-là, justement, se dessinent aux États-Unis.
Je trouve que l'histoire est essentielle dans ce qu'on vit au quotidien, hein? Puis surtout en politique. Ouais. On dit toujours que si on ne se rappelle pas de ce qui a été fait, on va reproduire les faits, même le négatif. Donc, avec des gens qui se penchent sur ce qui a été fait et cette analyse-là, autre que sur un bon politicien ou pas,
exactement.
Ben, c'est comme la base que ça nous prend pour la suite.
Hey, Pascal, je vais profiter de la technologie.